Alexandre Moranville-Ouellet. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
Il y a une nouvelle qui nous est pas vraiment parvenue ici au Québec à date. Une drôle de nouvelle qu'on verrait habituellement ici plutôt dans le Saint-Laurent. Hein? On a eu dans les dernières années, plusieurs baleines, hein, des cétacés qui sont remontés dans le Saint-Laurent, dans le fleuve. Et malheureusement, il y en a quelques-unes qui sont décédées, d'autres qui ont survécu puis qui ont pu remonter parce que l'eau douce, c'est pas fait pour ce genre d'animaux-là. Et là, par contre, c'est une nouvelle qui nous parvient, qui est presque similaire qu'on aurait pu lire dans le Saint-Laurent ici à Montréal, mais qui nous parvient de France. Il y a une baleine, un animal qui était localisé à environ 70 km de Paris, dans la Seine. Et pas n'importe quel animal marin, c'est un beluga. Un animal qu'on retrouve habituellement, mais vraiment pas en France, vraiment pas dans un fleuve comme la Seine. Pour en parler avec nous, Robert Michaud, président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins, le GREM. Bonjour, Monsieur Michaud.
Bien le bonjour.
Tout d'abord, qu'est-ce que ça fait là, un beluga, en France?
Il est perdu, il est très loin de chez lui.
Il est perdu très loin de chez lui. Est-ce que c'est un phénomène rarissime? Habituellement, on dit que par exemple, il y a deux petits rorquals qui se sont perdus ici à Montréal, une baleine à bosse aussi, c'est arrivé dans les dernières années. Souvent, vous m'en avez déjà parlé ici, même les jeunes, souvent, peuvent se perdre, être aventureux et autres. Mais là, c'est parce que on parle d'eau arctique, subarctique, sur le Saint-Laurent d'habitude. Oui. Comment ça se fait qu'il rentre en France?
Pourquoi? Ben, on n'a que des hypothèses, évidemment. Dans ce cas-ci, c'est un adulte, vraisemblablement. C'est pas une première. C'est des choses qui arrivent. C'est pas fréquent, mais c'est régulier que des animaux, à peu près de chez toutes les espèces, s'éloignent, perdent leur chemin et se retrouvent dans des endroits vraiment inappropriés. Mais c'est tout à fait le cas pour ce beluga-là, qui, selon les plus grandes probabilités, elle pourrait appartenir à une population comme celle de Svalbard, qui est un peu au nord de la Norvège, ou peut-être même la mer Blanche en Russie, sur le côté de la Finlande, par exemple. Alors, cet animal-là se serait vraisemblablement perdu. Pourquoi? Est-ce que c'est un animal qui était malade, dont la santé était déjà compromise? Est-ce que c'est un aventurier? Est-ce qu'il a fait, comme nous, quand on se perd dans le bois, une série d'erreurs? Alors, malheureusement, on n'a jamais la réponse à ces questions-là. On a des hypothèses comme celle-là. Mais si on pense au beluga en Europe, effectivement, ça serait étrange. Mais si on fouille dans les annales, il n'y a pas très longtemps, il y a un beluga qui est passé quelques mois dans la Tamise, qui est remonté jusqu'à Londres. Là, c'est il n'y a pas longtemps. Là, on est en septembre 2018. Et l'animal était parti par lui-même au début de l'année 2019. Si on revient encore plus loin dans le temps, dans le Rhin, en Allemagne, un beluga était en 1966. Un beluga a remonté, a passé beaucoup de temps. Et comme pour le beluga de la Seine, il y a eu quelques tentatives là, pour dérouter l'animal. L'animal se déjouait des bateaux, remontait plus loin que les bateaux voulaient le laisser passer. Et cet animal-là, vraisemblablement, se serait sorti de cette fâcheuse situation par lui-même. Si on vient ici en Amérique, ben nous, on a géré quelques cas de beluga dans des rivières, dans la rivière Delaware, à Philadelphie, au début des années 90. J'avais reçu un téléphone d'un journaliste qui m'envoie une photo d'un beluga sous un pont, juste avant d'arriver dans Philadelphie. Puis c'est un beluga du Saint-Laurent, c'était Ellis, un gros mâle qu'on connaissait bien. Et il s'est vraisemblablement sorti de là par lui-même. Puis là, si on continue l'analyse des cas, là, il y a des cas malheureux.
Il y en a beaucoup, oui.
Il y en a, puis il y en a chez toutes les espèces. C'est impressionnant. C'est un phénomène qu'on pourrait appeler un phénomène naturel qui est malheureux. Et nos choix d'intervention sont limités et sont difficiles. Ouais. Je vous avoue que j'aimerais pas me mettre dans la peau des équipes qui sont là. J'ai fait leur travail à quelques reprises. C'est difficile, c'est déchirant. Ils vont analyser toutes sortes d'options. Il va y avoir beaucoup de pression du public. En bout de compte, la bonne réponse, elle n'est pas déjà écrite dans le grand livre.
Ouais.
Alors, j'ai beaucoup de sympathie pour eux présentement. Beaucoup pour notre beluga, qui est le beluga qui est là-bas. On ne sait pas à quelle population il appartient, mais...
Mais ça ne peut pas être un beluga du Saint-Laurent. Ça ne peut pas être un beluga d'ici.
Honnêtement, je ne peux pas vous dire ça.
Ah ouais, hein, y aurait, ça se pourrait qu'il y en ait un qui a traversé l'Atlantique, par exemple.
Ben, je n'y crois pas. Okay. Je n'y crois pas, mais j'oserais pas dire ça ne se peut pas, parce que la nature nous fait des surprises des fois. Gardons un peu d'humilité. C'est pas nous qui appelons tous les coups dans ce grand jeu-là. Alors, cela, c'est un animal qui est perdu, qui est en mauvaise situation. Les collègues européens sont mobilisés présentement pour évaluer leurs options. Il y a des options qui, moi, me semblent moins intéressantes. Il y a des gens qui ont parlé de le nourrir. Je pense que le nourrir, c'est le condamner à moyen terme. C'est pas une bonne idée. Le capturer, le transporter, c'est difficile. Il y a des risques, mais l'issue, après ça, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qui arrive? Quand ça a été fait, ça n'a pas toujours été heureux. Il y en a qui disent qu'il n'y en aura pas de facile. Dans un cas comme ça, c'est effectivement la situation. C'est pas simple.
Vous parlez de nourriture.
C'est un phénomène naturel.
Vous parlez de nourriture, M. Michaud. Question rapide. Vous parlez de nourriture. Vous avez parlé d'autres belugas qui ont survécu quand même assez longtemps dans des estuaires comme ça, dans des fleuves, puis qui ont pu en ressortir. Est-ce qu'un beluga peut trouver de la nourriture, par exemple, dans un fleuve comme la Seine?
Ben, je l'ignore en réalité, mais je croirais que oui, si l'animal est motivé, s'il est en bonne condition, j'imagine qu'il pourrait en trouver. Est-ce qu'il y a une raison qui a motivé cette situation-là, qui fait en sorte que l'animal avait déjà une santé compromise, et même s'il y avait de la nourriture, il ne se nourrirait pas? Je l'ignore. On a eu 3 jeunes bélugas qui sont montés dans la rivière Saint-Paul sur la basse côte nord, tout près de Blanc-Sablon, il y a quelques années. Il y en a 2 qui sont morts d'inanition. Ils étaient dans une rivière à saumon. En principe, en fait, les pêcheurs craignaient que les bélugas vident la rivière de tout le saumon. En principe, il y avait la nourriture là, mais est-ce que dans cet environnement-là, ils ne sont pas capables de la chasser? Les bélugas doivent travailler pour se nourrir. C'est pas toujours facile attraper la nourriture. Puis dans cette situation-là, c'est peut-être plus difficile. Alors évidemment, on a beaucoup plus de questions que de réponses. Beaucoup de sympathie pour les belugas et l'équipe qui s'en occupe présentement.
Vous parlez de l'équipe qui s'en occupe. Allez-vous, en terminant, là, M. Michaud, proposer vos conseils, votre aide, si eux... parce que vous avez plus d'expérience quand même, je pense, avec les belugas, peut-être que vos collègues français. Allez-vous offrir votre aide?
On n'a pas été contacté. Évidemment, si on l'était, on allait parler avec nos collègues, mais les collègues qui s'occupent de ça appartiennent au même regroupement que nous, et on s'échange nos trucs, on publie nos trucs. Alors, ils savent bien ce qu'on a fait ici. On a eu des rencontres avec les regroupements européens encore l'automne dernier. Alors, c'est une petite communauté, hein, les gardiens des baleines, entre guillemets. Alors, on connaît bien nos trucs, ils sont bien échangés, mais si évidemment, s'il y avait un téléphone, on répondrait comme d'habitude.
Robert Michaud, président directeur scientifique du GREM, groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Merci de nous avoir donné vos lumières.
Ça fait plaisir. Bonne journée à vous.
Bonne journée. C'est qui conclut notre émission, en espérant que ce petit beluga puisse retrouver le chemin de la maison, surtout si cette maison-là est au Québec, c'est assez loin. Merci. Merci à l'équipe également qui est avec moi aujourd'hui, toute la semaine, Jean-François Roy, à la console. On a également Florence Lamoureux à la recherche. Je vous remercie. On se reparle lundi prochain.